Europe 1, 14h-15h, Clap. Mathieu Charrier.
Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Et pour une émission d'ailleurs un peu particulière, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais chaque année, tous les exploitants des cinémas français se retrouvent pour une journée à Deauville, à l'occasion d'un grand congrès, où leur sont présentées des bandes-annonces des films à venir dans les prochains mois. 265 bandes-annonces pour la dernière édition, c'était avant-hier, dans un contexte bien sûr particulier. Nous y étions et je vais tout vous raconter, les coulisses, quels sont les films les plus attendus, que vont-ils nous dire de notre société. Et puis Olivier Snanouch, qui dirige la distribution des films Warner en France, sera avec nous pour parler des défis qui attendent le monde du cinéma. À 14h30, notre rendez-vous, les films de ma vie. C'est Jean-Paul Gaultier qui a accepté de répondre à notre questionnaire. Alors quel est le premier film qui l'a marqué au cinéma, la bande originale de sa vie ou son film honteux ? Réponse dans une petite demi-heure. Enfin, juste après, notre débat des critiques. On parlera des films sortis en salle mercredi dernier. Au programme aujourd'hui, Les Apparences, porté par Karine Viard et Benjamin Biolay. On débattra de Blackbird, très beau film, je trouve, qui traite de la question du suicide assisté. On verra si mes camarades sont d'accord. On leur demandera aussi ce qu'ils ont pensé d'Eléonore, incarnée par Nora Hamzaoui. Et on vous dira un mot d'Enola Holmes, disponible sur Netflix. Voilà pour le programme de Clap. Et place à notre récit, je vous emmène à Deauville visionner 265 bandes-annonces de films.
Europe 1. Le récit.
Il est 9h30. Le ciel est voilé sur Deauville. L'année dernière, pour cette même journée des éditeurs de films, il faisait grand soleil. La météo est à l'image du moral du milieu du cinéma. Il y a d'ailleurs un signe qui ne trompe pas. Quand on arrive au centre des congrès chaque année pour cette journée des éditeurs de films, on est assailli par des flopées d'affiches de films qui doivent sortir dans les prochains mois. Elles encadrent le tapis rouge qui est en train de nous mener au CID. Et cette année, sur une majorité d'entre elles, aucune date de sortie. Et ce mot à la place, prochainement. C'est tout le problème. Selon Guy Reynaud, l'un des exploitants venus au congrès, il dirige le cinéma du Puy-en-Velay.
Prochainement. Les reports se font au fur et à mesure. On attend vraiment que les États-Unis puissent rouvrir leur cinéma. On espère que James Bond sera bien maintenu au 11 novembre. Il manque des films un petit peu d'action, grand public. Voilà, c'est ce qui nous manque.
Bonjour, je vous souhaite la bienvenue, amis exploitants, amis distributeurs, éditeurs de films.
Alors dans la salle, la présentation commence. Cette année, les rangs sont clairsemés, là où habituellement il n'y a pas un siège de libre. Le principe est simple. Chaque distributeur, Studio Canal, Gaumont, Warner, Universal, Pathé, Advitam, Diafana, Metropolitan et les autres, chaque distributeur a entre 10 et 20 minutes sur scène pour présenter des extraits et bandes-annonces des films qui vont sortir ces prochains mois. Un distributeur, c'est une entreprise qui achète le film une fois qu'il est prêt et qui doit convaincre au passage les exploitants de salles de les programmer dans leur cinéma.
Après les difficultés de ces mois passés, je pense que vous allez avoir au moins l'espoir de voir encore beaucoup plus de créativité pour l'année prochaine, mais aussi pour cette fin d'année. Vous allez voir, il y a des choses formidables.
C'est donc parti avec Apollo Film qui ouvre le bal, en présentant notamment un long métrage dans lequel Alex Lutz joue un tennisman en fin de carrière qui ne veut pas s'arrêter. Le titre, 5e set. On apprend aussi que la BD à succès de Fab Caro, Zai 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 Zai, est adaptée en film, portée par Jean-Paul Rouve. Ça sortira en avril de l'année prochaine. Et puis en décembre 2021, Fabrice Eboué nous offrira une comédie au titre équivoque, Barbac. On a vu les premières images, et c'est une comédie dans laquelle, avec Marina Foïs, ils se sont mis en tête d'éradiquer les véganes. D'ailleurs, ces bobos vont être la cible de pas mal de films dans les mois qui viennent. Autre exemple, Les Méchants, signé Mouloud Achour, qui s'attaque au sujet avec beaucoup d'ironie. Alors, les présentations s'enchaînent. C'est au tour de Sony, Warner, on y reviendra tout à l'heure avec Olivier Snanouch, ou encore Universal, qui présente des images du nouveau James Bond très attendu et toujours programmé au 11 novembre prochain.
Le passé ne meurt jamais.
James, le destin nous réunit à nouveau. À présent, ton ennemi est mon ennemi.
Comprenez que je veuille revenir dans la partie.
Je disais James Bond, très attendu, car il faut bien l'avouer, c'est un des seuls blockbusters dont la date de sortie semble confirmée. Tous les autres sont datés prochainement. Mort sur le Nil, repoussé. Wonder Woman, repoussé. West Side Story, repoussé. Pour l'anecdote, Paramount nous a même remontré les mêmes images de Top Gun qu'au congrès de l'année dernière.
La fin est inéluctable, Maverick. Vous êtes d'une espèce en voie d'extinction.
C'est possible. Mais pas aujourd'hui.
Le film devait sortir l'été dernier et il est désormais prévu pour l'été prochain. Alors beaucoup d'extraits de films d'horreur aussi sont présentés, sur ce plan-là on va être servi, avec notamment Freaky, une jeune étudiante américaine née poignardée par un tueur en série, ce qui a pour effet d'échanger leur corps. Elle se retrouve dans le tueur et a 24 heures pour inverser le processus, sinon elle est condamnée pour le restant de ses jours.
Non seulement ce taré a pris possession de mon corps, mais en plus il assure.
Oh my god, c'est carrément une boucherie.
Freaky qui sortira le 23 décembre. Mais un peu après 13h, au moment de la pause déjeuner, le constat est sans appel. Le cinéma va traiter de ses thèmes classiques, la famille, l'amitié, des portraits de femmes aussi, beaucoup. Mais peu de films américains ou blockbusters sortiront ces prochains mois. Un problème quand on sait qu'ils représentent 50% des entrées dans notre pays. Mais Marie-Madeleine Cocheteux, qui dirige le cinéma Le Foyer à Douvres-la-Délivrande, veut quand même y croire.
On tient parce qu'on y croit, et puis les spectateurs qui viennent chez nous, qui reviennent, sont très contents quand même de retrouver la salle, avec toutes les émotions qu'on peut rencontrer dans une salle de cinéma, plutôt que devant son téléviseur.
Mais c'est vrai qu'en revanche, l'offre de films français, elle, est très riche. Car à 15h, quand les présentations de bandes-annonces reprennent, c'est Ad Vitam qui relance l'espoir, en présentant des hommes portés par Gérard Depardieu, Catherine Fraud et Jean-Pierre Darroussin, qui arrivera début novembre.
Je t'ai écrit tout ça. L'ennui des corvées, ceux qui buvaient jusqu'à ce qu'ils s'écroulent. Les tours de garde, le soleil qui tournait, la chaleur, la poussière. Mais le reste, non. Ça, on ne peut pas le raconter. Parce qu'il n'y a pas de mots pour raconter ça.
Suivi notamment de Rouge, ou Profession du Père, porté par Benoît Poulvorde et signé Jean-Pierre Améry. Puis c'est au tour de Gaumont. Et là, les surprises s'enchaînent. D'abord, les toutes premières images d'OSS 117. On en a vu trois extraits et je peux vous dire que le film s'annonce très réussi et dans la veine des deux précédents. Le fait que Michel Hazanavicius ait abandonné le projet ne semble pas avoir eu de conséquences.
Vous voyez l'automobile derrière moi ? Ça fait un petit moment que j'observe.
Eh bien ?
Eh bien, elle est absolument impeccable. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non ? À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.
Déduction, intuition, discrétion du pur OSS 117.
OSS 117, Alerte Rouge en Afrique Noire, sortira en février. Mais dès octobre, c'est Albert Dupontel et Virginie Efira qui devraient attirer du monde en salle avec Adieu les cons. Puis en novembre, place à Aline, le vrai faux biopic de Céline Dion, signé Valérie Lemercier.
Faut que tu guérisses.
Je suis pas malade, maman. Je tombe en amour.
Puis je suis sûre que lui, c'est pareil. Vous avez pas compris que pour ma petite princesse, c'est un prince qu'il lui faut. Pas un vieux Bruno bronzé qui a trois fois son poids, deux fois et demi son âge et qui est deux fois divorcé.
Alors ce film-là, je l'ai vu et je vous garantis qu'il va affoler le box-office. Autre film très attendu, présenté cette fois par Studio Canal, c'est Bac Nord, sur des flics ripoux de la BAC de Marseille. Cette plongée au cœur des cités, au cœur de la police, c'est un thème qui revient de façon récurrente dans le cinéma en ce moment. On parlait il y a quelques semaines notamment de Police signée Anne Fontaine. Alors François Civil, Karim Leclou, Gilles Lelouch et Cédric Jiménez sont la seule équipe de films à avoir fait le déplacement à Deauville pour présenter leurs images. Les années passées, il y en avait 4, 5, 6 parfois. Écoutez le réalisateur Cédric Jiménez et son acteur François Civil qui parlent du film pour la toute première fois.
C'est sûr qu'il y a quand même un portrait des quartiers nord à Marseille à travers la police, la BAC, qui tourne toute la journée avec eux, donc qui connaissent les habitants, qui connaissent aussi les problèmes. Mais c'est avant tout leur histoire. Hein. C'est avant tout vraiment l'histoire de ces trois hommes et comment ils ont traversé cette tempête qui les a complètement dépassés. Donc on est vraiment à travers leurs yeux.
Moi, honnêtement, quand j'ai vu le film, j'ai trouvé que la facture du truc, ça me faisait penser à des films de Denis Villeneuve, genre des Sicarios qu'il a pu faire, où bon, c'est la frontière mexicaine, donc c'est plus exotique que ce qu'on voit dans le film là, mais quand même Marseille, il y a un truc très, très cinégénique, et Cédric, qui connaît très bien cette ville, l'a filmé à merveille, donc je trouve que dans l'image, dans le son, même dans ce que mes camarades ont proposé en jeu, donc je crois franchement que c'est très réussi, ouais.
Bac Nord programmé au 23 décembre. T'entends aussi le film Boîte Noire, porté par Pierre Ninet et qui arrivera en mars. Il enquête sur un crash d'avion et doit faire parler la fameuse boîte noire. Le Pacte, de son côté, présente le nouveau film de Mai Wen, ADN, sur les racines de l'actrice-réalisatrice, attendu dans quelques semaines en salle.
C'est ton grand-père qui faisait qu'on était une famille.
Ma mère, elle a 50% algérienne. Donc moi, la moitié de 50, c'est 25.
Tu voudrais bien me donner ta salive pour un test ADN complet ?
Ah.
Et puis, place à Pathé, qui arrive avec deux surprises. D'abord, les premières images du film FL, attendu pour février prochain. Premières images époustouflantes. Le parti pris du réalisateur Martin Bourboulon, c'est de raconter que Gustave Eiffel s'est en fait lancé dans ce projet pharaonique parce qu'il venait de retrouver son amour de jeunesse. Un pied entier de la tour Eiffel a même été reconstitué en banlieue parisienne. Et les premières images font très envie. Et puis, les Tuches 4 sont attendues à Noël prochain. L'histoire tournera d'ailleurs autour de cette fête. Et pour allécher les exploitants de salles, la famille Tuche a entonné en vidéo leur chant officiel.
Vive les frites, vive les frites, vive les frites d'hiver, qui se servent frissonnantes dans un grand plat en verre. Oh, vive les frites, vive les frites, vive les frites d'hiver.
Voilà, vous allez l'avoir dans la tête pour tout l'après-midi. Vous aurez donc compris, beaucoup de films français, peu de blockbusters, et ça on en parle dans un tout petit instant avec Olivier Snanouch qui dirige la distribution de Warner Bros. France. C'est eux qui ont sorti Tenet, vous savez, fin août, mais qui viennent en revanche de repousser Wonder Woman. Alors pourquoi ? Réponse dans un tout petit instant.
Clap. Mathieu Charrier fait son cinéma sur Europe 1.
Et on poursuit donc notre récit dans ce clap consacré à cette journée des éditeurs de films, puisque c'est comme ça que l'on dit, qui se déroulait jeudi à Deauville. On a vu 250 bandes-annonces qui prédisent qu'on va découvrir les semaines et les mois qui viennent dans nos salles. Et je voulais en discuter avec vous, Olivier Snanouch, bonjour.
Bonjour.
Je voulais en discuter avec vous à deux titres, parce que déjà vous gérez la distribution de Warner France, et puis parce que vous êtes aussi président adjoint, vice-président de la Fédération des éditeurs de films, vous avez une double casquette. Je précise à nos auditeurs, notamment, que c'est vous qui avez sorti Tenet fin août, on en a beaucoup parlé, notamment sur notre antenne, mais partout d'ailleurs, qui était le premier blockbuster américain à ressortir en salle. Alors, aujourd'hui, on s'approche, je ne sais pas si on les atteindra, mais des 2 millions d'entrées. A posteriori, qu'est-ce que vous vous dites ? On a bien fait, vous êtes battu, j'allais dire, contre les Américains, vos patrons américains. Non, vous faites non de la tête ? Ça n'a pas été si facile
non,
que ça
non,
à sortir.
Non, parce que c'était une décision du studio, avant tout. Hein. Voilà, c'est une décision mondiale. Donc, bien sûr que nous avons accompagné en France. C'est notre mission. Mais ça a été une volonté vraiment de sortir ce film à la fin de l'été pour que les salles puissent avoir une activité et continuer justement et quelque part poursuivre leur existence. Parce qu'aussi, on pensait à l'époque, quand les salles ont commencé à rouvrir un peu partout dans le monde au début de l'été, puis un peu plus tard aux États-Unis, que bon, on allait être un peu sorti de la crise. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et encore une fois, notamment aux États-Unis, et c'est là que le bât blesse, c'est que malheureusement, toutes les grandes villes américaines sont encore sinistrées. Dans beaucoup de ces grandes villes, les salles de cinéma sont toujours fermées, les gens sont toujours confinés. Donc on se rend peut-être pas compte de ça quand on est en France, parce que nous, on a eu la chance de pouvoir se déconfiner en juin, de, pour certains, retourner à leur bureau, de pouvoir retourner au cinéma, au restaurant, vivre un peu. Malheureusement, voilà, le virus est toujours là et il faut vivre avec. Et évidemment, ça ne facilite pas la fréquentation des salles, puisque même si les mesures sanitaires sont très protectrices, il y a des gens qui ne souhaitent pas y aller. Quoi.
Quasiment 2 millions de spectateurs aujourd'hui pour Tenet. Vous êtes content ou pas ?
Oui, oui et non. C'est-à-dire que oui, parce que c'est un score magnifique en soi, de toute façon, d'avoir eu 2 millions de spectateurs sur un film en cette période où on a du mal à attirer même 1 million de spectateurs dans toutes les salles en une semaine. Donc oui, ça a été un très beau score. Le film a démarré très très fort puisqu'on a fait presque 1 million la première semaine. Donc il y avait une attente, une envie, mais malheureusement, c'est insuffisant par rapport au budget du film. Voilà. Et même si on est un des pays où le film a le mieux marché au monde.
Et est-ce que c'est pour ça que Wonder Woman, qui devait sortir ces prochaines semaines, est décalé à la fin de l'année ?
Oui, c'est aussi parce que, après, vous avez des films qui ont, au départ, un potentiel plus fort à l'international ou plus fort aux États-Unis. La grosse problématique aujourd'hui, c'est le marché américain, qui est le premier marché du monde. Et si les films ne peuvent pas faire leurs entrées correctement aux États-Unis, c'est un problème pour la rentabilité totale des films. Donc Wonder Woman, c'est un film qui, par exemple, a un gros potentiel aux États-Unis, même s'il en a un aussi à l'international. Donc l'idée, c'est d'attendre effectivement que la situation s'améliore aux États-Unis, donc le sortir, en plus à Noël, qui est une très bonne période, vu que En plus, il y a moins de concurrence que d'habitude cette année à Noël.
En tant que vice-président de la Fédération des éditeurs de films, aujourd'hui on est à 1 million d'entrées chaque semaine à peu près. Avant le Covid, on était plutôt entre 3 et 4. On se dit qu'on va pas pouvoir tenir très longtemps comme ça.
Non, c'est-à-dire à la fois, on peut se dire qu'un million, c'est formidable, qu'il y a 1 million de personnes qui aillent au cinéma chaque semaine, c'est quand même, ça prouve qu'il y a quand même une envie. Mais effectivement, c'est très insuffisant pour rentabiliser les salles. C'est pour ça que pendant le congrès, la ministre de la Culture a annoncé un plan très fort de soutien à tous les métiers du cinéma, parce que l'enjeu, c'est que les salles puissent survivre à cette crise dont on ne sait pas combien de temps elle va durer encore.
À la Warner, vous avez la spécificité de sortir des films américains, mais aussi français. Là, il y a Miss qui arrive dans quelques semaines, puis Comment je suis devenu un super-héros à la fin de l'année. Ces films-là, j'imagine que c'est plus facile de les sortir, puisque eux sont destinés uniquement au marché français.
Oui, c'est absolument, vous avez raison. Notre premier objectif, c'est le marché français. Donc là, on n'a pas la préoccupation de se dire il faut sortir aux États-Unis. Mais ça reste quand même un risque en ce moment, puisque ces films-là aussi, dans leur économie, il faut qu'ils fassent un certain nombre d'entrées. Et on espère que dans la période actuelle, ils vont pouvoir les faire. Voilà. Mais il faut y aller, il faut continuer, il faut les sortir. Parce qu'on l'a vu aussi, bien sûr, il y a des gens qui hésitent à aller au cinéma, mais on l'a vu avec Tenet, quand il y a une offre forte, les gens viennent. Bon, ce qu'on a vu pendant la journée des éditeurs au Congrès, c'est qu'il y a quand même une offre très forte, notamment de films français. Il y a beaucoup de films français qui arrivent, qui sont des très bons films et qui ont la capacité de réunir un grand public, dont Miss et Comment je suis devenu super-héros, j'espère. Mais donc, même si les films américains sont un peu moins présents, on espère que ça va suffire à motiver le public pour venir massivement en salle.
Et aujourd'hui, vous lancez la production de films, vous achetez des films, notamment français, encore pour 2021. Où vous vous dites, OK, stop, on arrête tout et on attend de voir comment ça évolue.
Non, bien sûr, puisque le jour où la crise va s'arrêter, on pense que les gens vont revenir au cinéma. On espère que les salles seront toujours là et qu'il y aura toujours des éditeurs de films, si ça ne dure pas trop longtemps. Mais les gens vont revenir. Et là, il faudra avoir des films à leur offrir. Et c'était une autre problématique de ces derniers mois, c'était la reprise des tournages, qui sont très compliqués aussi dans les conditions sanitaires qu'on connaît, mais on arrive à les reprendre, là aussi avec des plans de soutien pour avoir des assurances, etc. Mais nous, par exemple, nous sommes en train de tourner avec nos partenaires producteurs Le Trésor du Petit Nicolas, qui est le troisième film de la saga Petit Nicolas, avec Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy, voilà, qui est un film qu'on va sortir à l'automne pour les vacances de la Toussaint 2021. Voilà, il y a beaucoup d'autres films qui sont en tournage en ce moment.
Pour finir, votre sentiment, tout simplement, parce que vous sortez d'une semaine de congrès avec les exploitant. Vous êtes dans quel état, Olivier Stanouch ? Vous êtes inquiet ? Vous êtes rassuré ?
Voilà, à moitié rassuré, à moitié inquiet, parce que, bon, déjà, c'est toujours bien de se retrouver entre tous les professionnels. Je pense qu'il y a un vrai sentiment cette année. On a un peu laissé les querelles de chapelle de côté, et il y a une vraie volonté d'aller tous ensemble pour qu'on s'en sorte, quoi. Et voilà, et c'est ce qu'il faut faire. Et voilà, donc non, on y va, on y croit, il faut y croire, et on va tout faire pour que les gens aient envie de revenir au cinéma.
Merci, Olivier Stanouch, de nous avoir répondu, vice-président de Warner France, directeur de la distribution, vice-président du syndicat des éditeurs de films. J'espère qu'on vous a aidé à y voir un petit peu plus clair sur qu'est-ce qui est en train de se passer dans vos cinémas, pourquoi il y a moins de films américains, pourquoi dans les prochaines semaines ça risque de durer et pourquoi vous allez voir en revanche de très beaux films français. Vous restez avec nous dans un tout petit instant, à presque 14h30 sur Europe 1, eh bien ce sera l'heure des films de ma vie. Vous connaissez le principe, une personnalité qui nous parle de son premier souvenir de cinéma, du film qui l'a fait le plus rire ou le plus pleurer, ou de la bande originale qui a marqué sa vie. Et aujourd'hui c'est Jean-Paul Gaultier qui sera notre invité. À tout de suite.
Clap. Mathieu Charrier.
Et on se retrouve dans Clap pour les films de ma vie. Vous connaissez le principe désormais de cette nouvelle séquence. Une personnalité qui répond à un questionnaire de Proust, mais version cinéma. Et c'est Jean-Paul Gaultier qui a accepté de se prêter au jeu aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Et merci de nous recevoir ici dans vos locaux du 3e arrondissement de Paris, ouais. À la Maison Gaultier.
Oui, bien éclairé et tout, mais il ne fait pas trop chaud, ça va.
Ça va. C'est parti, vous êtes prêts ?
Prêt.
Votre premier souvenir de cinéma ?
Alors, le premier film que j'ai vu, c'est comment Falbala. Falbala, le film donc de Jacques Becker avec Micheline Prel, et qui parlait justement de l'histoire. C'est un film des années fin 40 qui montrait l'histoire d'un couturier qui tombe amoureux de Micheline Prel, évidemment, qui devient sa muse, etc.
C'est joli, tu sais.
Ça l'arrange.
pas.
Mets-lui le manteau, tu veux.
Quel manteau?
Celui qui va avec la robe, bien sûr.
Il n'est plus là. Vous l'avez fait renvoyer à l'atelier pour faire diminuer le col.
Oh, pourquoi se t'en précipiter? Il n'y a pas le feu, non? Allez, va me chercher ce manteau. M'en veux-tu que j'ai une idée de l'ensemble sans le manteau? Puis dépêche-toi, je commence à en avoir assez.
Et c'est ce film, pourquoi j'en parle et tout, parce que j'ai voulu devenir ce couturier.
Et c'est ça le cinéma qui vous a donné envie de devenir ce que vous êtes.
Voilà, ben, si vous voulez, j'avais déjà vu auparavant des choses, genre des revues, j'avais vu Les Folies Bergères à la télévision, des choses semblables. Là, ce film-là, Falbala, c'était un vieux film, donc je l'ai vu à la télé aussi, en noir et blanc, parce que c'était noir et blanc. Le film était à la base, évidemment, noir et blanc. Et qui m'a donné vraiment cette impulsion de dire c'est ça, je veux être comme le couturier. Et donc il y avait cette notion aussi de défilé avec le fait de bouger, qui avait une muse inspiratrice, vous voyez, une actrice évidemment avec très bel éclairage et tout. Donc c'est pour ça que quand j'ai fait de la mode, après j'ai voulu faire à tout prix. S'il n'y avait pas eu de défilé, j'aurais pas fait de mode, je crois.
Votre meilleur souvenir en salle?
Il y en a plusieurs, mais disons qu'on va dire, je pense, le meilleur souvenir en salle. C'est le Rocky Horror Picture Show, parce que c'est quelque chose d'assez unique, d'iconique. On the day I went away. Moi, j'avais vu le premier, j'avais eu la chance de voir à Londres dans les années 75, je crois, 74-75, j'avais vu la pièce de théâtre sur King's Road, comme ça par hasard, grâce à l'affiche qui était avec des lèvres ensanglantées et tout. J'avais trouvé ça super, je me dis, parce qu'elle correspond aussi à l'esthétique. Je crois qu'à sa sortie, il a eu qu'un succès très limité, quoi. Et après, il est devenu complètement culte, c'est-à-dire que des gens, et notamment dans des salles, que ce soit à New York, à Londres ou à Paris, il y avait des gens qui, au moment du mariage, commençaient à jeter des grains de riz. Certains personnages qui étaient représentés, tout était commenté. Quand il y avait la danse, la chorégraphie, ils dansaient. Et la chose la plus démente, c'est une fois, imaginez, vous avez l'écran, donc on voit la scène, devant ceux qui sont habillés comme... Alors là, c'était à New York. Hein. Tous les comédiens étaient représentés et jouaient devant l'écran. Mais quand un acteur dans le film sortait du champ, le personnage en question a imaginé ce que pouvait faire le personnage dans la réalité du film. Ça, c'était quand même extraordinaire. Là, une création dans la création. Fabuleux.
Votre pire souvenir en salle?
Mon pire, qui n'est pas un pire, enfin le pire, je dirais, c'est la déception en général, tous ceux qui m'ont déçu. Mais il y en a un notamment, j'étais allé voir, on m'avait parlé d'Exorciste. Et je m'attendais à quelque chose de terrifiant. C'était arrivé avec le fait que les gens, le premier Exorciste, hein, que les gens sortaient de la salle, il y en a qui vomissaient dans la salle, enfin que c'était effrayant. Je l'ai vu et moi ça m'a fait beaucoup rire. Donc voilà, on va dire, c'est le paradoxe entre le fait du succès qu'il avait et les gens qui avaient peur, et moi au contraire que ça faisait tout à fait rire.
Le film que vous aimez mais vous avez honte de l'avouer?
Il y en a plein qui sont un peu, peut-être, je sais pas s'ils sont à voix, peu à porte, mais enfin, disons, j'aime bien les Sous-doués, certains films très franchouillards, assez drôles. J'allais vous dire quelque chose, un film qui est, moi, je trouve au contraire génial, et que je n'ai pas du tout honte des films de Mucky, par exemple, Un drôle de paroissien et tout, je trouve ça extraordinaire.
Mais on pourrait pas faire un petit effort et essayer de travailler un peu?
Jamais aucun Lachaunais n'a travaillé.
Depuis 4 générations.
Les gens, ça a l'air de les agacer qu'on ne travaille pas.
Est-ce que j'ai l'air agacé, moi, parce qu'ils travaillent?
Nous représentons une goutte de paresse dans un océan de labeur.
Non, de quoi pourrais-je avoir honte? J'ai honte de rien, en fin de compte.
Le film qui vous a fait le plus rire?
Le film qui m'a fait le plus rire, c'est celui que je n'ai pas encore vu. C'est celui, et j'en suis certain, qui va me faire hurler de rire, de Valérie Lemercier. Aline, évidemment.
Maman? Oui, mon amour. Tu sais ce que je voudrais le plus?
Mademoiselle Dieu.
C'est de devenir une grande chanteuse.
I get wings to fly. C'est vraiment toi qui chantes là-dessus?
Oui.
Ouais. C'est à toi que je parle, Céline.
Aline.
Penses-tu que tu pourrais chanter pour moi?
Consacré à l'univers de Céline Dion.
Exactement.
Un vrai faux biopic de Céline Dion.
Exactement. Rien que l'affiche déjà, à hurler de rire.
Le film que vous conseilleriez à votre meilleur ami?
Le film que je conseillerais à un meilleur ami... Ah oui, un film que j'ai adoré, bien sûr, qui est absolument magnifique, c'était L'amour, avec Trintignant et tout, de Haneke.
Amour, ouais.
Oui, quand j'étais en plus dans le jury du Festival de Cannes. Donc je dois dire, ça a été un régal, là.
Tout à l'heure, quand je suis entrée, je me suis rappelé comment je vous écoutais toujours faire l'amour quand j'étais petite. Ça me donnait le sentiment que vous vous aimiez et qu'on resterait toujours ensemble.
Tu ne vas quand même pas malmener ton image sur tes vieux jours.
Mais c'est quoi mon image?
Tu es un monstre parfois.
Je dirais, en fin de compte, comme conseil, je ne donnerai pas un conseil d'un film spécifique. Ce que je dirais plutôt, c'est aller voir différentes sortes de films. Ne pas rester pollué que sur la science-fiction, que sur... Oui, maintenant je dirais peut-être que j'ai les films que je n'irais plus voir ou que je les conseillerais, c'est peut-être justement Star Wars, hein, parce que j'ai adoré le premier, j'avais adoré, ça avait été un choc et tout, mais après, en plus tous les films, ce film a été tellement copié par d'autres, après j'ai pas trop aimé, je trouve que ça a plutôt pas très bien évolué. Mais encore, je ne devrais pas trop en parler du fait que j'avais plus du tout aucune envie de les voir. Je dirais que la série dans le genre science-fiction, je suis pas tellement branché science-fiction parce que c'est, il y en a trop dans le même genre de style. J'ai adoré, par exemple, bon, j'ai trouvé très beau, par exemple, Dune. Il faut qu'esthétiquement, ça m'apporte des choses. J'ai adoré Alien. Ah, ça, par contre, c'est celui-là. Et tous les Aliens. C'est celui-là extraordinaire. Parce qu'en fin de compte, il y a une espèce d'ambiance. Esthétiquement, c'est absolument fabuleux. L'Alien est quelque chose d'hallucinant. Ils avaient, pour la première fois, mis de l'humide et du crachoteux, etc. et tout. Terrifiant. Mélange de métal et d'humidité. Enfin, c'est de robotique en même temps, tout en étant organique, enfin, extraordinaire.
Vous êtes sûr de vous, capitaine?
Comment ça?
Mais bordel, on sait même pas ce qu'on va trouver!
On dirait qu'il y a une vie organique.
Alien, génial, de génial, tout le temps, à chaque fois.
Et la bande originale qui a marqué votre vie?
A marqué ma vie, je ne sais pas, mais en tous les cas, une séquence, Hitchcock, avec,
Le couteau.
Oui, avec Psychose. Le couteau, Psychose. Donc, là, le mouvement correspond parfaitement au film, vous voyez. Ou alors, il était une fois dans l'Ouest, vous voyez. Alors là, c'est assez drôle parce que ce film-là, à la fois la musique est absolument reconnaissable et tout, absolument, mais en plus, même pour la mode, c'est-à-dire que c'était dans les années donc 70 et les manteaux longs en cuir et tout, etc., c'est devenu très à la mode grâce au film, je crois, vous voyez. Il correspondait à la mode de l'époque et tout, donc il y avait un lien. Et la musique avec, c'est incroyable. Ça, c'est de la musique.
14h-15h sur Europe 1, clap.
Merci beaucoup,
ah ben je vous
Jean-Paul
remercie.
Gauthier, de nous avoir reçus ici. Et je rappelle que vous intervenez dans un documentaire consacré à Pierre Cardin, qui est sorti en salle mercredi dernier, où on découvre l'artiste. Il a été très important pour vous, ça on le comprend bien.
Très important, très important. C'est-à-dire que vraiment, j'ai appris grâce à lui la liberté, qu'on pouvait être libre.
Et parce que moi, ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'il s'est rebellé contre cet univers de la haute couture dans les années.
Totalement, ça, totalement. Il a fait le prêt-à-porter et tout. Après, on a dit que c'était d'autres personnes, mais en vérité, c'est lui le premier qui a présenté vraiment du prêt-à-porter. Il a innové plein de choses. La musique était importante aussi pour lui dans ses défilés. Et il a joué dans un film avec Jeanne Moreau. Donc, il était aussi très près de l'univers du cinéma. Il habillait aussi Jeanne Moreau et Brigitte Bardot dans le film où elles sont toutes les deux ensemble.
Et il faisait du design aussi.
Du design, enfin, les meubles et tout. Non, 50 000 choses. Enfin, c'était vraiment... Moi, je suis rentré au moment où s'ouvrait l'espace Cardin.
Ah oui.
Donc, cette année-là, où d'un seul coup, j'arrivais pour faire des robettes ou à la limite des lunettes et des choses comme ça, et ils me demandent de faire des meubles. Voilà. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu.
Et vous le voyez encore aujourd'hui, régulièrement ?
Régulièrement, non, mais je le vois, oui, avec plaisir. Et il vient, il est venu à mon dernier défilé. Alors moi, j'aurais arrêté de faire des défilés avant lui.
Bon, merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçus ici. Nous on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de Clap, le temps d'accueillir mes collègues critiques et on va débattre des films sortis en salle mercredi dernier.
Clap. Mathieu Charrier fait son cinéma sur Europe 1.
Et ils ont pris place autour de la table pour débattre des films sortis en salle mercredi dernier. À ma gauche, Marilyn Le Tertre de Madame Figaro. Bonjour Marilyn.
Bonjour Mathieu.
Et à ma droite, Fabrice Leclerc de Paris Match. Bonjour Fabrice.
Bonjour Mathieu.
Alors on
Bonjour
a un gros Marilyn. Programme aujourd'hui les amis. Avec Blackbird qui a un huis clos sur la question du suicide assisté, les apparences portées par Karine Viard et Benjamin Biolay. Avec Eleonore aussi, la Sénora Hamzaoui. Et puis Enola Holmes, petite sœur de Sherlock, ça c'est sur Netflix. Mais on commence d'abord donc avec Blackbird, réalisé par Roger Mitchell, à qui l'on doit notamment Coup de foudre à Notting Hill.
Est-ce qu'on peut essayer d'avoir un comportement aussi normal que possible ?
Oui, ok.
Pas de soucis.
Ok, parfait. Anna, Chris, vous dormez ? Je vais bientôt mourir. Vous vous joignez à nous ?
Jonathan a vraiment du mal à en parler.
De tuer mamie ? Non, pas du tout. C'est illégal, pas vrai ? Comment vous allez faire ?
Mais tu es sûre parce que elle a dit qu'elle était prête. Elle est prête, mais moi pas.
Ça devrait le faire.
Alors l'histoire, c'est celle de Lily, qui est jouée par Suzanne Sarandon, qui est atteinte d'une maladie dégénérative. Elle sait qu'elle est condamnée et elle a décidé de mettre fin à ses jours en buvant, vous savez, un petit mélange. Mais avant tout cela, Lily invite toute sa famille et sa meilleure amie pour un week-end chez elle, dans sa maison de campagne. Alors tout le monde est au courant de ce qui va se passer. Et ce week-end va entraîner évidemment beaucoup d'émotions, de règlements de compte, de déclarations d'amour aussi. C'est ça d'ailleurs qui est beau dans ce film, c'est qu'il décrit les sentiments familiaux poussés à l'extrême. Alors est-ce que vous, ça vous a touché ?
Magnifique, très émouvant, même merci la petite larme.
Assez émouvant, bien joué, bien réalisé, pas de longueur.
Bonnes actrices, scénario convenu.
Très très bien fait, très bien joué. C'est un sujet très difficile évidemment. Après, c'est très très américain.
Magnifique, voilà. Nous on a notre papa qui s'est suicidé alors, donc ça nous parle doublement. Il a décidé de partir un peu dans ce modèle-là.
Marilyn, un public ému, et vous ?
Oui, ému.
Ce petit air.
Non, pas du tout.
Elle a au moins été émue.
Ouais, c'est ça.
C'est déjà beaucoup pour moi. C'est un mélo assez classique dans sa facture et dans son propos. Après, il a l'avantage énorme d'être servi par un casting 5 étoiles. Le problème, c'est que les personnages sont assez vite campés. On a Kate Winslet qui fait la fille un peu psychorigide, Mia Wasikowska qui est la fille rebelle, la maman avec le tempérament un peu mordant, c'est-à-dire que même face à la mort, elle a du tempérament, elle y va, elle est cash. Voilà. Mais ce sont d'excellents comédiens. Donc oui, on se fait attraper. Après, ils sortent pas mal les violons, notamment dans la dernière partie du film, où là, ils y vont pas avec le dos de la cuillère, mais pour peur qu'on ait envie d'une bonne petite chialade, ça peut marcher.
C'est vrai qu'on voit un petit peu les coutures, mais c'est efficace. Fabrice Leclerc.
Alors, moi, j'ai été pris par ce film, parce que l'histoire est évidemment très forte. Les actrices, Kate Winslet et Suzanne Sarandon, sortent quand même du bois, il faut le dire. Après, moi, j'ai ce même problème d'à force de me surligner les moments d'émotion où je dois pleurer. Je n'ai pas pleuré une seule fois dans ce film-là, alors que c'est plutôt des sujets où moi, je suis assez bon public, j'ai le mouchoir facile. Là, je ne l'ai pas eu. Et c'est amusant de voir Roger Mitchell passer de la comédie britannique au mélo new-yorkais. Il le fait avec talent, vraiment sans les actrices. Qu'est-ce que serait ce film ? Avec les actrices, c'est un très beau film qui a ses limites dans le, vraiment dans le mélo.
Mais c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on s'attend à voir.
Oui, et on parlait des actrices, mais quand même une petite mention spéciale à Sam Neill, qui pour moi est mon gros chouchou dans ce film, gros coup de cœur. C'est un acteur que les gens connaissent pour Jurassic Park, notamment, ou récemment pour Peaky Blinders, où il faisait un méchant. Et là, il est d'une délicatesse, d'une tendresse. Il joue le mari, oui. Et il est bouleversant. Moi, c'est lui, en fait, qui m'a attrapé et qui, au final, m'a ému. Et il faut quand même préciser, vous disiez tout à l'heure, Mathieu, que c'était un film notamment sur la question de l'euthanasie. Alors, il expédie la question assez rapidement pour en venir plutôt au règlement de comptes familiaux. Et c'est assez malin, le sujet étant un peu touchy, il se dit bon, ça va être un peu le truc de fond, mais je ne vais pas trop m'y frotter, parce que je ne vais pas prendre trop de risques quand même.
Et Kate Winslet, quand même, il faut le dire, moi je savais qu'elle était dans le film, et sa première apparition, je ne l'ai pas reconnue. Voilà, j'ai mis 3 minutes à... Ah, mais c'est Kate Winslet, quand même, ça c'est le symbole des grandes actrices.
Voilà pour Blackbird, signé donc Roger Mitchell.
Clap.
Alors, deuxième film dont je voulais qu'on parle aujourd'hui, c'est Les Apparences, signé cette fois Marc Fitoussi, porté notamment par Benjamin Biolay et Karine Viard.
Ève Monibert, vous êtes une des figures incontestées de la communauté française installée ici, à Vienne. Comment fait-on pour gérer tant de bonheur? On arrive à garder les pieds sur terre?
Tous les parents d'élèves ont reçu un mail de la maîtresse de Malo qui ne nous était pas du tout destinée.
Ça veut dire qu'elle entretient une liaison avec un papa de l'école?
Je me demande bien qui sera l'heureux élu.
C'est ça qui t'intéresse, en fait? Le prestige, les apparences.
Le résumé est assez simple et assez classique d'ailleurs. Ève et Henri sont en couple, ils vivent à Vienne, lui est un grand chef d'orchestre, elle travaille à la bibliothèque de l'Institut français, ils sont dans un bel et grand appartement. Voilà, vous avez compris, c'est le couple d'expatriés parfait, en apparence en tout cas, puisqu'un jour Ève se rend compte qu'Henri la trompe, rien de très original me direz-vous, mais tout leur entourage commence à être au courant et elle n'a alors qu'une idée en tête, sauver son couple. Bien sûr, les apparences dans ce milieu d'expatriés qui aiment bien se regarder le nombril, c'est très important. Vous voyez partout sur les affiches que le film est comparé à l'univers de Chabrol. Qu'en pensez-vous?
C'est bien joué, il y a du suspense jusqu'au bout.
Beaucoup de suspense, ça décrit bien le monde français des expatriés à Vienne.
C'est plutôt bien ficelé. Je trouve que le personnage du garçon est en trop.
Il faut juste que ça manque un peu de corps et un peu de nerfs.
Rainière, elle n'est pas mise en valeur. D'habitude, elle est pétillante, là non.
Tout est très forcé, montré, démontré. Ça manque un peu de finesse.
Oh, c'est du déjà vu, déjà fait, des acteurs moyens. Ça fait série télévisée. Je n'en ai rien tiré.
Fabrice Leclerc, un public plutôt mitigé qui nous parle de séries télé. Vous, je crois que vous avez beaucoup aimé Les Apparences.
Oui, j'y ai pris un plaisir absolument faramineux. Pourquoi ? Parce que c'est, pour moi, c'est du cinéma du dimanche soir et ça n'est pas du tout méchant dans ma bouche. C'est un cinéma plaisir extrêmement bien écrit, il faut le dire. Marc Fitoussi, un grand talent de metteur en scène.
Un peu appuyé.
Ah, moi, je ne trouve pas du tout. Moi, ce genre de film, je le déguste. Je vous dis, le cinéma du dimanche soir, confortablement installé dans son canapé. Ben non, là, on ira au cinéma avec le masque. Mais non, c'est un film plaisir dans la grande tradition du cinéma français. Karine Viard est absolument étonnante. Elle est toujours sur la brèche de la folie, de la méchanceté, la caricature de ce monde très nombriliste, c'est vrai, des expatriés. C'est un drame de la bourgeoisie. Non, vraiment. Moi, c'est un film dans lequel j'ai pris beaucoup de plaisir jusqu'à la fin et malgré Biolay, voilà, qui n'est quand même pas un acteur, il faut le dire, et qui le montre encore une fois.
Marilyn Letarte, vous êtes un petit peu plus mitigée, je crois.
Non. Moi, j'aime.
Avez mis une étoile de moins dans le tableau des critiques.
Ce sont les apparences.
Tout à fait, le tableau des critiques de Mehdi Omaïs. Alors, en fait, je ne suis pas d'accord sur Benjamin Biolay, notamment. Donc, moi, je trouve tout à fait à sa place. Dans ce rôle, il a le mystère qu'on attend. En même temps, cette espèce de classe totale. Moi, j'ai trouvé que le couple fonctionnait bien. Et c'est ce qui m'a plu dans le film, c'est ce couple de diaboliques. Parce qu'il faut quand même le dire, ils sont détestables. Ils sont superficiels, ils sont égoïstes, ils sont snobs, ils sont méprisants. Et j'avoue qu'on prend un malin plaisir à les voir évoluer. Et moi, ce que j'adore dans le film, c'est la peinture du microcosme, effectivement, des expatriés en Suisse.
Qui fréquentent les mêmes salons de coiffure.
Extrêmement bien écrit, c'est grinçant. On rit beaucoup au début. Après, ça part effectivement vers quelque chose de plus noir, de plus chabrolien, comme ça a été écrit. Quoique Chabrol avait aussi cet humour et ce côté grinçant. Mais quand ça part vraiment dans le polar, c'est-à-dire, sans spoiler, on va dire, sur la dernière partie du film, moi, je suis un tout petit peu moins convaincue. Je trouve qu'il va un poil trop loin, comme vous le disiez tout à l'heure en introduction. Et ça me sort un petit peu du film, mais dans l'ensemble, quand même, on prend du plaisir. Et notamment, effectivement, grâce à Karine Viard, qui excelle à jouer les monstres. Elle est géniale quand
elle joue
ça.
Je suis assez étonné, moi, de la réaction des spectateurs. Qu'on vient d'entendre, qui parle de téléfilm. Pour moi, j'aimerais beaucoup voir des. D'ailleurs, un téléfilm n'a rien de péjoratif.
Vous parlez du
téléfilm
de dimanche soir.
Non, mais c'est du cinéma plaisir. C'est du cinéma traditionnel à la française, totalement plaisir. Qu'est-ce qu'on va chercher au cinéma en ce moment ? On me dit oui, il n'y a rien dans les salles. Si, il y a plein de choses. Et quand les gens vont voir des films, ils ressortent en disant que c'est un téléfilm. Non.
Voilà pour les apparences, signé Marc Fitoussi. Clap. Alors, troisième film sorti mercredi dernier, là aussi on va en débattre, c'est Éléonore, incarnée par Nora Hamzaoui et réalisée par son frère Amro.
Si tu te reprends pas immédiatement en main, tu finiras en HP, comme ta grand-mère Babette.
J'ai 34 ans, j'ai pas de boulot.
Faut savoir faire un constat d'échec parfois, si tu avais du talent, ça saurait maintenant.
Vous pensez être une psychopathe ?
Ce dont j'ai besoin, c'est que tu réagisses. Et que tu te mettes enfin à te comporter comme une adulte.
Vous croyez pas devenir d'elle, maman. C'est comme pour les tox et les alcoolos. Faut que ça vienne de l'intérieur. Hein ?
Là encore, le pitch est finalement assez simple. C'est le quotidien d'une trentenaire complètement paumée, aspirante romancière, qui va se faire recruter comme assistante d'un éditeur spécialisé dans les romans érotiques. Et voilà, c'est un peu le portrait de cette génération paumée qui se complaît à la fois dans son quotidien tout en se cherchant un avenir bien poussé, il faut bien le dire, et bien titillé par toute sa famille. Est-ce que ça vous a convaincu ?
Très bonne surprise, très beau film, touchant, plein d'émotions, j'adorais.
C'est très bien sur la dépression. Sur le cinéma, c'est autre chose.
C'est un film qui aborde beaucoup de sujets sur la personnalité, enfin d'être soi-même, de s'accepter, sous un côté ludique qui fait que c'est très agréable.
C'est plutôt bien écrit, un peu mou, mais c'est sympa.
Très intéressant parce qu'il y a beaucoup de retournements de situation.
Le personnage principal est attachant. Petit film agréable à regarder.
Petit film, Marilyn Letertre, nous dit-on.
Alors, oui, petit film, parce que premier film, donc film avec budget modeste, pas forcément des grosses stars. Donc j'imagine que c'est en ça aussi que les gens appellent ça un petit film. Mais c'est un premier petit film, prometteur. Évidemment, il a des défauts, quelques maladresses. Les personnages, là encore, sont un petit peu prévisibles, ce qui se passe aussi. Mais moi, j'ai pris du plaisir à voir Nora Hamzaoui évoluer dans un film, tenir le premier rôle. Un premier rôle de jeune fille névrosée, et j'entends déjà les critiques qui vont nous dire mais elle fait déjà les névrosées sur scène.
Non,
mais attention, la névrose
tout.
Est un problème générationnel. La névrose a plusieurs formes,
si
et
Marilyn
là la
fait
forme
les critiques
est différente.
Et les réponses,
est-ce bah que oui. non mais est-ce que ce que j'aime, parce que c'est quelque chose que j'ai entendu en salle chez mes petits camarades, et ce que j'aime, c'est justement que ce personnage, il est antipathique. Et finalement, c'est assez rare de voir des personnages féminins qui ne sont pas foncièrement sympathiques.
Oh.
Elle est déprimée, elle n'est pas apprêtée, elle est mal aimable, elle est terne, elle envoie bouler
son
monde.
On en voit 50 comme ça dans le cinéma français toutes les semaines.
Fabrice
non,
Leclerc.
C'est faux, pas toutes les semaines, je ne suis pas d'accord avec Fabrice. Et du coup, moi je trouve que ça se tient, même si il faudrait un petit peu plus de piquant dans l'écriture.
Fabrice.
Moi j'aime beaucoup le film parce que j'aime bien Nora, j'aime bien... En fait, j'aime bien la première demi-heure du film, qui est pour moi une vraie réussite, où il y a une vraie ambiance, elle a un vrai personnage, il y a une vraie écriture, il se passe quelque chose d'un peu original dans ces films. Excusez-moi, je le redis, mais qu'on nous sert quand même à l'appel en ce moment, cette fameuse génération qui se regarde le nombril et qui déprime. Bon, c'est bon, ça va, on a compris.
En même temps, on a vu 400 films de flics, on continue à en faire, c'est pas une critique qu'on aimait, donc pourquoi pas 400.
Tout à fait, je suis d'accord.
De jeune femme,
le seul problème du film, c'est qu'au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, il n'a strictement plus rien à dire. Donc, il tourne en rond, il se complaît dans son pitch de départ. Ensuite, ça se finit finalement extrêmement moralement. Voilà, c'était un très très bon moyen métrage. J'aurais juste aimé un peu plus d'écriture tenue jusqu'à la fin, ce qu'on manque vraiment, parce qu'on rentre dans la dernière demi-heure, dans la grande banalité du... De genre de film.
Et ce qui est vrai, c'est qu'il faut aimer Nora Hamzaoui pour aller voir ce film.
Oui,
c'est
et quand André même Marcon. André Marcon, car leurs scènes ensemble sont les plus jolies scènes
tout
du film. C'est très poétique et très tendre.
Éléonore, donc signé Amro Hamzaoui. Clap. Et pour terminer, on va dire deux mots du nouveau film Netflix. Là aussi, vous voyez beaucoup de publicité un peu partout. C'est Enola Holmes.
Ma mère m'a appelée Enola. Il y a une semaine, quand je me suis réveillée, mère, j'ai découvert que ma mère avait disparu. Et elle n'était pas revenue. Je m'apprête à l'instant à accueillir mes frères, Mycroft et Sherlock. Oui, Sherlock Holmes, éminent détective, mon frère est un génie. Lui, il aura réponse à tout.
Enola.
Bonté divine. Regardez-moi ça. On dirait une vulgaire paysanne.
Il est temps à présent de retrouver ma mère.
Enola Holmes, qui n'est autre que la petite sœur du détective Sherlock Holmes et qui découvre, alors qu'elle reçoit ses deux frères dans la maison familiale, que sa mère a disparu. Au passage, ses deux frères estiment qu'il faut revoir toute l'éducation d'Enola et ils comptent bien s'en charger, alors qu'elle ne pense qu'à une chose, bien partir retrouver cette mère disparue et surtout s'émanciper de ses deux frères beaucoup trop étouffants. En rentrant dans le studio, tous les deux m'avaient dit « Ah, bonne surprise, Marilyn !»
Écoutez, ouais, c'est un teen movie, hein, ça s'adresse quand même à, voilà, aux 15-20 ans majoritairement, mais c'est plutôt malin, c'est bien mis en scène. Millie Bobby Brown est bien meilleure que dans Stranger Things ou dans des petits rôles, Godzilla notamment,
dans lequel
elle était un petit peu à côté de la plaque de temps en temps. Là, elle a dû prendre 2-3 petits cours entre deux. Oh. Et du coup, on passe un bon moment, ça dure 2 heures, j'avoue qu'on ne les voit pas passer. C'est assez punchy, c'est malin,
c'est feel good. Hein.
Voilà, j'ai aimé.
Et Fabrice aussi, je crois d'ailleurs.
Mais oui, moi j'ai pris un plaisir tout à fait simple. Je me dis qu'Hollywood devrait faire ce genre de film en ce moment et pas les laisser faire par Netflix.
Effectivement.
Il y a une vraie intelligence. C'est le metteur en scène de Fleabag, pour ceux qui connaissent cette série qui réalise le film. Elle est absolument très très bien. Et puis il y a plein de choses. Il y a un recours à l'animation, il y a un recours au face caméra. Il y a une vraie originalité.
Oui, parce qu'elle nous parle, Enola Holmes.
Tout à fait. Et il y a une vraie originalité dans la normalité de ce que ce film pourrait être. Il l'est, voilà, c'est du produit de grande consommation qu'on regarde et qu'on oublie assez vite, mais dans lequel on prend du plaisir et avec une petite intelligence, talent de mise
dans
en scène,
forme,
talent d'acteur. Je trouve que la mayonnaise prend bien finalement.
Voilà, ils me mettent des réserves sur les films qui sortent en salle et ils adorent le film.
Pas du tout, c'est une caricature, Mathieu.
Arrêtez
Charrier.
De sortir du studio pendant qu'on fait notre échange.
Fabrice,
on a dit du bien des films.
Fabrice Leclerc de Paris Match, merci beaucoup Marilyn Letertre, Madame Figaro.
Merci
d'être venu dans ce studio de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Nous on se retrouve comme chaque samedi, 14h, 15h sur Europe 1. N'hésitez pas aussi à vous abonner à nos podcasts. Vous tapez Clap sur votre plateforme, peu importe, vous retrouverez ça partout. Vous nous notez, vous commentez, on est toujours très contents de voir ces petits messages. Merci à Nicolas Baudin qui réalise l'émission, Marjorie Adelson qui la prépare et qui va recueillir vos impressions à la sortie des salles. Et rendez-vous samedi prochain.
Europe 1.